Ésaïe chapitre 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel et mon âme s'égaiera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nos dernières études sur la réforme sanitaire vous ont parlé. J'espère qu'elles vous ont éclairé, confirmé ou corrigé en bien s'il y avait des choses que vous ne saviez pas et que vous n'aviez pas, avec lesquelles vous n'aviez pas encore été familiarisé. Quoi qu'il en soit, c'était une réelle source de bénédiction pour moi, et je pense que ça peut l'être aussi pour nous si nous avons le cœur ouvert et disposé à entreprendre une réelle réforme, et à pratiquer la véritable réforme et la véritable tempérance, comme nous avons été appelés à le faire, comme nous l'avions lu par l'esprit de prophétie. Donc, nous avions vu dans notre première étude, l'étude tremplin de cette, si on peut dire, série sur la réforme, la purification du sanctuaire, que nous avions relevé trois réformes principales parmi le peuple adventiste. Si je change un peu l'ordre, nous avions trouvé la réforme sur l'observation du sabbat, ce qui était la première réforme que le peuple adventiste ait entreprise, c'était celle sur le jour du Seigneur. Et quel jour est le sabbat? Ensuite, il y avait la réforme sanitaire, comme nous avions vu la dernière fois, que nous avons exploré en détail. Ensuite, bien sûr, il y avait aussi d'autres choses telles que la réforme sur l'organisation, sur la dîme, sur d'autres choses ici que je n'ai pas encore, que je n'ai plus plutôt à l'esprit, qui étaient de moindre importance. La réforme sur, on peut dire une réforme, ça faisait partie des choses sur lesquelles le peuple de Dieu a été illuminé, des nouveaux devoirs par rapport à la participation à la guerre et d'autres choses encore, sur le mariage, etc. Mais le troisième point que j'avais relevé et que je m'étais engagé à vous partager au bon moment, c'était la réforme vestimentaire. Mais alors, cette réforme vestimentaire, frères et sœurs, pour aborder ce sujet, je m'y suis pris et je m'y prends toujours et je m'y prends encore aujourd'hui à tatillon, comme on peut dire. J'y vais avec une grande précaution. Et donc aujourd'hui, c'est la première partie où nous voulons nous pencher sur les principes spirituels fondamentaux. Donc, ça commence comme ça. Le titre en entier, c'est « De nouveaux devoirs, la réforme sanitaire », première partie. Et le sous-titre, c'est « Principes spirituels fondamentaux ». C'est sur cela que nous voulons nous attarder aujourd'hui et c'est ce que nous voulons méditer. Alors, la raison pour laquelle nous voulons nous concentrer sur les principes spirituels fondamentaux, frères et sœurs, c'est parce que lorsque l'on parle de réforme, écoutez-moi bien ici parce que c'est très important, cette étude ici aujourd'hui, elle ne va pas vraiment satisfaire probablement vos attentes si vous avez vraiment envie d'appliquer de nouvelles règles très très vite. elle ne va pas vous satisfaire dans ce sens-là. Toutefois, elle va nous permettre d'établir et de discerner des principes fondamentaux qui donnent à la réforme, à cette réforme vestimentaire et à toute autre réforme extérieure qui a trait à nos pratiques extérieures, qui leur donne un sens profond. Parce que lorsqu'on parle de réforme, le plus important, c'est de ne pas chercher en priorité à réformer les gens de l'extérieur. Parce que nous avons cette tendance, n'est-ce pas? Nous avons cette tendance à vouloir réformer les gens de l'extérieur. Parce que voilà ce que nous faisons, et c'est d'ailleurs ce que les hommes du monde font. Par défaut, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à appliquer des réformes. Par défaut, ce qu'ils cherchent à faire, c'est appliquer des réformes par le moyen de lois. Les hommes, dans leur manière naturelle de procéder, cherchent toujours ou pratiquement toujours à réformer les gens de l'extérieur. Et donc, ils légifèrent. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains, qui se voient confier des vérités de haute valeur et des normes, des critères, des standards très élevés par Dieu dans sa parole, par Dieu dans son esprit de prophétie, nous aussi, nous sommes imbus de cette tendance, de cette disposition naturelle à vouloir légiférer. Donc nous avons les standards, les critères que Dieu nous donne, et peut-être que nous, personnellement, nous en reconnaissons la valeur spirituelle, mais naturellement, nous allons chercher à réformer les gens de l'extérieur. C'est ce que nous ferons naturellement, c'est ce que les hommes font naturellement. Ils implémentent des lois pour imposer aux hommes une certaine conduite, une certaine façon de faire, une certaine obéissance. C'est comme ça que les gouvernements fonctionnent. C'est comme ça que toute société aujourd'hui que je puisse connaître fonctionne. Elle réforme les gens de l'extérieur parce qu'elle ne sait réformer les gens de l'intérieur. Et d'ailleurs, dans l'esprit de prophétie, dans le livre Jésus-Christ, nous lisons au sujet de Jésus que il ne tenta aucune réforme sociale en visant le gouvernement romain ou la gouvernance juive, parce qu'il savait que c'est seule la réforme du cœur qui dure. Et donc c'est ce que je voulais dire, c'est que aucune réforme ne peut être durable qui ne commence pas à l'intérieur, à savoir dans le cœur, pour ensuite trouver expression à l'extérieur. Donc si nous avons en tête une réforme extérieure que nous désirons voir les gens adopter, il nous faut d'abord nous poser la question. Quelle est la réforme intérieure qui pourra entraîner ce changement extérieur? C'est là que repose tout le dilemme et toute l'activité de la religion de Jésus-Christ, du christianisme. Non pas de légiférer, à savoir imposer l'obéissance à travers des lois et des règles, mais d'éduquer. Jésus vint dans le monde non pas pour légiférer, pour imposer aux hommes des lois qu'il fallait qu'ils obéissent, parce qu'ils avaient déjà la loi de Dieu et que déjà ils n'obéissaient pas à la loi de Dieu. Non, il est venu montrer pourquoi est-ce que les hommes eux-mêmes, de leur propre cœur, désireraient obéir à la loi de Dieu. Il est venu montrer, fournir des motifs spirituels profonds sous-jacents de l'amour de Dieu qui ferait naître en ces sujets un désir personnel, individuel, d'obéir et de se réformer. Et donc, dans la réforme sanitaire, comme nous l'avions vu, nous voyons ce principe-là incarné de réformer par l'intérieur pour ensuite trouver une expression à l'extérieur. Nous le voyons dans la huitième loi de ces lois de la santé, qui est le cœur et la vie de toutes ces autres réformes extérieures des habitudes, à savoir la confiance en Dieu, ou comme c'est écrit aussi littéralement, la confiance en la puissance divine. Cette huitième loi incarne ce principe que Dieu désire éduquer, non pas simplement légiférer, à savoir que dans cette confiance en Dieu, nous trouvons toute la vie, tout le cœur, tout le battement de cœur de notre conformité à toutes ces autres lois de la santé qui nous sont présentées comme vitales pour notre santé physique. Mais Dieu dit aussi, tu as besoin de te confier en moi. Parce que toutes ces autres choses, toutes ces autres pratiques extérieures de ta vie, si tu les fais, mais que tu ne m'as pas en toi, que ce battement de cœur, de l'amour de Dieu, de cette confiance en Dieu, de cette sécurité avec Jésus, si cela n'est pas quelque chose d'actif, alors toutes ces autres choses sont simplement une réforme extérieure qui ne va pas apporter la vie. Et ce principe-là, il est tout particulièrement vrai lorsque l'on parle de réforme vestimentaire. Alors, il est tout particulièrement vrai. Établir des lois, des règles, sans donner à l'âme une raison profonde et spirituelle qui fasse naître en elle le désir d'entreprendre une réforme sérieuse, c'est comme mettre la charrue devant les bœufs. Souvent même, faire cela, c'est précisément cette attitude légaliste qui pousse les âmes au bord du précipice et les envoie dans le camp de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que, en mélangeant les vérités divines de la parole de Dieu à l'autoritarisme de la chair, qui est une des multiples et différentes œuvres de la chair, en mélangeant cela, les vérités divines, les règles, les standards, les critères divins de la parole de Dieu à l'autoritarisme naturel de l'homme, nous créons et nous semons la confusion. Et par cela, nous nous incluons aussi en esprit, si ce n'est en acte, dans la Babylone déchue. Nous nous incluons lorsque nous cherchons à entreprendre des réformes extérieures sans éduquer les âmes, sans susciter un désir profond et sincère pour une obéissance du cœur. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous incluons en esprit dans la Babylone déchue. Pourquoi ? Parce que nous semons la confusion à travers ce mélange. La confusion, c'est un mélange de vérité et d'erreur, à travers ce mélange entre notre attachement à la vérité et notre disposition à vouloir imposer la vérité par la législation. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? C'est quelque chose qu'il nous faut absolument comprendre et dont il faut que nous nous défaisions. C'est un esprit qui n'est pas actif et qui n'anime pas les êtres dans le ciel, ni les anges, ni Dieu. Donc maintenant nous avons vu et précisé ce point-là, nous voulons nous attarder, hein, parce que nous sommes dans ces principes spirituels fondamentaux, et nous voulons maintenant, frères et sœurs, nous pencher sur la question du symbolisme. Le symbolisme que la Bible nous donne sur le vêtement et par le vêtement. Pour cela, je vous invite à vous tourner vers les paroles de Ésaïe chapitre 64. Ésaïe chapitre 64 et verset 6, où je lis. Tous nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices sont comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Comment sommes-nous devenus? Nous sommes tous comme un homme souillé, comme c'est écrit dans la Bible King James, nous sommes tous comme une chose souillée. Et toutes nos justices sont comme un vêtement impur. Donc réfléchissez ici avec moi, frères et sœurs. Nous avons besoin de réfléchir à la parole de Dieu pour comprendre le sens que Dieu y a renfermé. Nous lisons que nos justices sont comme un vêtement impur. Penchons-nous ici sur ce que le Seigneur est en train ici d'essayer de communiquer. Où réside le problème dans notre justice? Est-ce que le vêtement est juste sale? Hein, nous lisions, nous sommes tous devenus comme un homme souillé. Toutes nos justices sont comme un vêtement impur. Donc nos justices sont comme un vêtement impur, à savoir un vêtement sale. Et donc est-ce là le problème que notre justice est sale? Est-ce uniquement cela le problème? C'est à cela que nous voulons obtenir, et pour cela que nous voulons obtenir une réponse. Et pour répondre à cette question qui est suscitée par la parole de Dieu, nous nous tournons vers les paroles d'Apocalypse, chapitre 3, versets 17 à 18. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Je lis. Ici, Jésus, le témoin fidèle et véritable, dit au Laodicéen, « Je connais tes œuvres, verset 15, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, etc., je te vomirais de ma bouche. Pourquoi ? Car tu dis. » Jésus dit au Laodicéen, que tu dis. Il lui dit que il dit. Et que dit le Laodicéen ? Il dit et il pense, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi, et là c'est Jésus qui parle maintenant. Jésus maintenant répond à cette condition. Et pour remédier à cette condition qu'il vient de décrire au sujet du Laodicéen, il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraissent point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et te repens. » Est-ce que vous avez relevé certaines choses ici, frères et sœurs? Est-ce que vous relevez dans le langage de Jésus quelque chose de significatif par rapport à notre méditation actuelle. Jésus dit au Laodicéen, bon, le Laodicéen dit, pense être, s'être enrichi et n'avoir plus besoin de rien. Jésus lui dit que il dit, tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et aveugle et nu. Et pour ces cinq adjectifs, je crois que c'est des adjectifs, pour ces cinq mots définissant la condition spirituelle du Laodicéen, Jésus détient et propose un remède. Parce que le Laodicéen est malheureux, misérable et pauvre, Jésus lui propose de l'or. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Tu es malheureux, misérable et pauvre, je te conseille d'acheter de l'or. L'esprit de prophétie nous présente cet or comme l'or de la foi et de l'amour. Ou l'amour qui agit, pardon, la foi qui agit par l'amour et qui, comme le dit l'esprit de prophétie, qui purifie l'âme. Voilà quel est cet or. C'est l'or éprouvé par le feu, à savoir la foi. La foi dont Jésus est l'auteur. Donc c'est une foi qui a été cette fois purifiée par le feu et qui est propre à notre réception, qui sera capable en nous et par laquelle nous serons capables en Dieu d'obéir à tous ses commandements. L'or éprouvé par le feu. Ensuite, pour la deuxième condition qu'il décrit dans ce quatrième adjectif, celle de l'aveuglement, il dit « Tu ne connais pas que tu es aveugle. » Jésus, dans la fin du verset 18, dit « Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Jésus propose un collier. L'esprit de prophétie nous parle ici de discernement spirituel. Dieu nous propose ici du discernement spirituel que nous allons recevoir si nous sommes prêts à être éclairés par l'Esprit de Dieu et si nous n'éteignons pas la voix de l'Esprit. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses discerner entre le bien et le mal, le sacré et le profane. Ce collier, Jésus nous le donne à travers l'Esprit, mais primordialement, il nous le donne dans sa parole et dans l'Esprit de prophétie. Et si nous voulons bien recevoir cette illumination telle qu'elle vient, sans fabrication, sans addition ou soustraction, alors nous recevons de Christ un collier pour oindre nos yeux, afin que nous voyions. Alors que nous étions aveugles. Et le troisième adjectif, où il disait « Tu ne connais pas que tu es nu », pour celui-là, Jésus propose et dit « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. » Donc là, Jésus vient pallier à cette justice qui est comme un vêtement souillé, au sujet de laquelle nous avons lu dans Ésaïe chapitre 64, verset 6. Et Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi, quoi? Des vêtements blancs pour être vêtus. D'accord, nous comprenons ici. Nous comprenons que nos justices sont comme un vêtement souillé et que Jésus nous propose un vêtement propre. Nous pouvons comprendre cela. Seulement, est-ce tout? Est-ce ici tout le cœur du problème de nos justices, qui sont comme un vêtement souillé? Hein, nous posions la question. Où réside le problème dans notre justice? Est-ce juste que ce vêtement qui est symbolique de notre justice est sale? Est-ce là le seul problème? Ou bien, est-ce juste le tissu qui n'est pas propre à représenter le caractère de Dieu, symboliquement parlant, est-ce là le problème? Eh bien, la réponse, nous la voyons ici, Jésus nous propose, dit, je te conseille d'acheter des mois, des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Que la honte de ta nudité ne paraisse point. Donc, mes frères et sœurs, si je lis bien ici, et si vous lisez aussi de concert avec moi, vous verrez que ce n'est pas juste que le vêtement est sale. Ce n'est pas juste ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne couvre pas bien la nudité et que, en conséquence, pour cette raison-là, Jésus déclare du Laodicéen qu'il est nu. Voici ici, frères et sœurs, un principe spirituel fondamental qu'il nous faut comprendre si nous voulons comprendre la justice de Christ et ensuite la réforme vestimentaire. Et ici, vous comprenez encore mieux et encore plus précisément la raison du pourquoi nous parlions au départ de notre méditation que la seule réforme durable, c'est celle qui vise l'intérieur, le cœur, pour ensuite trouver une expression à l'extérieur. Et bien ici, Jésus ici nous présente des réalités spirituelles par le moyen de conditions physiques réelles. Quelles sont-elles? Nous les avons lues. Pauvreté, cécité ou aveuglement et nudité. Et nous savons ici, sans l'ombre d'un doute, que Dieu parle principalement de réalités spirituelles. Seulement, il utilise pour les définir des conditions physiques réelles et naturelles et que l'on peut comprendre, et auxquelles nous pouvons associer ces choses spirituelles dont il cherche à nous parler. Hein, vous réalisez ici, Jésus parle de la nudité, et il dit que le problème, c'est que ta nudité paraît. Et parce que la nudité paraît, quand bien même c'est en partie, parce que dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, il est bien question de personnes qui ont leur propre justice, mais pourtant une justice qui ne satisfait pas aux exigences de Dieu, parce que c'est une justice qui est comme un vêtement souillé. Et ici, le Laodicéen, nous le savons bien, et nous le voyons ici au verset 17, considère qu'il a une certaine justice, il a sa propre justice, qui est cependant un vêtement souillé, mais Dieu dit quand même au sujet de ce Laodicéen qui est quand même habillé, quand bien même son habit n'est pas suffisant, qu'il est nu. Donc, la Bible nous présente la nudité, non pas comme nous considérons la nudité, à savoir lorsqu'une personne n'a plus aucun vêtement, ce n'est pas ça que Dieu veut dire quand il parle de nudité. La nudité, pour Dieu, cela commence dès qu'une partie de la nudité du corps est découverte. Et ça, cela constitue aux yeux de Dieu comme une nudité entière. Il n'y a pas de à moitié, de un quart ou de un tiers. Si vous êtes à moitié nu ou seulement nu d'un tiers, vous êtes aux yeux de Dieu entièrement nu. Et donc, est-ce que la Bible nous présente un exemple concret qui illustre ces principes-là que nous venons de voir à travers ces deux passages. Pour cela, nous nous tournons vers Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 6 à 11. Donc ici, nous connaissons bien l'histoire d'Adam et Ève. Et nous prenons, nous relevons le récit à mi-chemin au verset 6 où Ève voit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et s'en va en manger et nous sommes attentifs ou nous prêtons attention ici dans notre lecture au résultat sur Adam et Ève vis-à-vis au résultat de leur transgression par rapport à leur nudité et leurs vêtements. Je lis. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu ? » Et il, Adam, répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu dit « Qui t'a montré que tu es nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, etc. » Est-ce que vous relevez ici quelque chose, mes frères et sœurs, par rapport à cette question du vêtement et de la nudité? C'est ce que nous cherchons ici à comprendre. Vous voyez ici, au verset 7 et suivant, que bien que Adam et Ève s'étaient cousus des feuilles de figuier, comprenez ici, mes frères et sœurs, que le monde, avant la chute, avait les arbres avaient étaient beaucoup plus grands et les feuilles de figuier étaient beaucoup plus grandes. Avaient une résistance beaucoup plus importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est écrit qu'ils se sont cousus. Hein, qu'est-ce qui t'a marqué? Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie... c'était très très fibreux ces feuilles de figuier et ça leur a permis de se coudre quelque chose de suffisant pour couvrir une grande partie de leur nudité. Couvrir leur corps. Mais, bien qu'ils se sont cousus des feuilles de figuier et qu'ils se sont fait des ceintures, quand Dieu arriva, ils s'enfuirent quand même. Parce que, comme Adam le dit, au verset 10, j'ai craint parce que je suis nu. Donc vous voyez ici qu'Adam n'était pas nu dans le sens que nous entendons la nudité. Adam était partiellement nu, mais c'était suffisant pour être nu aux yeux, à ses propres, aux yeux de Dieu et à ses propres yeux. Quand bien même il avait péché, il savait pertinemment que sa nudité l'exposait spirituellement et physiquement, parce que les deux sont indissociables. Adam savait cela. Aujourd'hui, le savons-nous? En sommes-nous conscients? Ou avons-nous perdu à travers les millénaires, de génération en génération, le sens et le sentiment profond de la réalisation de la sainteté de Dieu? Avons-nous perdu le sentiment profond de la sainteté de Dieu? J'aimerais lire ici pour élargir ces paroles de Genèse dans l'esprit de prophétie, dans le livre Parabole de Jésus à la page 270 et au paragraphe 3. Ici, l'esprit de prophétie élargit ce scénario pour nous faire comprendre pourquoi il est écrit que Dieu dit qui t'a montré que tu étais nu. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, dans de nombreux cercles chrétiens, dans la grande majorité des cercles professant le christianisme, la compréhension, c'est que Adam et Ève étaient nus, mais qu'ils n'en étaient pas conscients du jardin. Donc c'est un peu les prendre pour des idiots. Ils savaient qu'ils étaient nus. S'ils le voyaient, ils auraient su. Mais nous créons des espèces de fabrication de la parole de Dieu parce que nous n'avons pas tous les éléments. Mais l'esprit de prophétie, Dieu merci, nous donne les éléments dont nous avions besoin pour comprendre clairement, mais nous aurions pu les comprendre si nous avions été diligents dans notre étude de la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, je lis ici dans Parabole de Jésus à la page 270 et au paragraphe 3, ceci. La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le Saint-Éden. La robe blanche de l'innocence. Ils vivaient alors en harmonie parfaite avec la volonté de Dieu, et toute la force de leurs affections était consacrée à leur Père céleste. Une belle et douce lumière, la lumière de Dieu, enveloppait le couple saint. S'ils étaient demeurés fidèles à Dieu, elle ne les aurait jamais quittés. Donc, qu'est-ce que cela veut dire quand il est écrit dans la parole de Dieu qu'ils étaient nus et qu'ils ne connaissaient pas? Je crois que c'était dans Genèse chapitre 2, verset 25, où il est écrit, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur nudité était couverte et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas honte. Aujourd'hui, nous disons, ils étaient nus, mais il n'y avait pas de honte. C'est quand ils ont péché qu'il y avait de la honte. Je suis désolé, ce que vous enseignez, ce n'est pas correct. Ils étaient nus, mais leur nudité était couverte par un voile de lumière, une belle et douce lumière, la lumière de Dieu, enveloppait le couple saint. Nous savons que c'est la réalité parce qu'il est écrit en autre endroit, dans les psaumes, que Dieu se couvre de lumière comme d'un manteau. Et que Adam et Ève, l'homme et la femme, ont été créés à l'image de Dieu. Donc est-ce que Dieu maintenant, lui, se revêt de lumière comme d'un manteau, mais il va revêtir ceux qu'il crée à son image, il va les faire nus? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, quand il est écrit qu'Adam et Ève, sa femme, étaient tous deux nus et qu'ils n'en avaient point honte, La raison pour laquelle ils n'en avaient point honte, c'est parce qu'ils ne pouvaient voir leur nudité, parce qu'elle était recouverte. Par quoi ? Par la lumière de Dieu, qui représentait la condition de leur caractère, qui était une harmonie parfaite avec la volonté de Dieu. Voilà ce que cela voulait dire. Et quand ils ne furent plus en harmonie parfaite avec la volonté de Dieu, que se passa-t-il ? Ils perdirent cette lumière, ils perdirent ce vêtement et ils devinrent nus parce que leur nudité représentait correctement la condition de leur caractère. Et donc, que représente et que typifie notre nudité ? Elle représente notre manque d'harmonie avec la volonté de Dieu et notre séparation d'avec le saint caractère de Dieu. Donc, il y avait marqué que s'ils étaient demeurés fidèles à Dieu, elle, cette belle et douce lumière, ne les aurait jamais quittés, mais quand le péché entra, ils, Adam et Ève, coupèrent leur lien avec Dieu et la lumière qui les entourait s'évanouit. Nus et honteux, ils essayèrent de remplacer leurs vêtements célestes par des feuilles de figuier qu'ils cousirent ensemble. Qu'est-ce que c'était ? Comment l'esprit de prophétie décrit leurs vêtements qu'ils avaient eu auparavant ? Des vêtements célestes. Donc ils avaient des vêtements. C'était juste que c'était des vêtements célestes. Qu'est-ce que c'était ? Une belle et douce lumière. Qu'ils ont quoi ? Perdu lorsqu'ils ont transgressé la loi de Dieu, désobéi à l'ordre du Seigneur, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance et du mal. Et ils ont donc cousu des feuilles de figuier ensemble, et l'esprit de prophétie continue en disant « C'est ce que tous les transgresseurs de la loi divine ont fait depuis le jour de la désobéissance d'Adam et Ève. Qu'ont-ils fait ? Ils ont utilisé eux aussi des feuilles de figuier pour cacher la nudité résultant de leur transgression. Ils ont mis des habits de leur invention. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils se sont efforcés de dissimuler leurs péchés sous leurs propres œuvres et de se rendre acceptables aux yeux de Dieu. Donc, lorsque nous cherchons par nos propres œuvres à nous rendre acceptables aux yeux de Dieu, à quoi est-ce que cela est assimilé et comparé dans la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie ? C'est semblable à nous coudre pour nous-mêmes ensemble des feuilles de figuier pour couvrir notre nudité. Mais est-ce que cela suffit ? Je le lis ici. « Mais ce travail est vain » ou comme c'est écrit littéralement « mais ça, ils ne peuvent pas le faire. Rien ne pourra jamais remplacer la robe d'innocence que l'homme a perdue. Ceux qui seront assis avec Christ et ses anges au festin de noces de l'agneau ne seront pas revêtus des feuilles de figuier ni d'habits de ce monde. » Donc là, nous avons le conseil négatif vis-à-vis de ce qui ne peut être fait, à savoir que nos propres œuvres, notre propre justice, nos feuilles de figuier cousues ensemble ne peuvent satisfaire ne peuvent remplacer la robe d'innocence que Adam et Ève ont perdue, et que ceux qui seront assis avec Christ et ses anges au festin de noces de l'agneau ne seront pas revêtus de feuilles de figuier ni d'habits de ce monde. Et là, ça nous amène à la question de savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour remédier à la nouvelle condition de nos premiers parents. Et pour la réponse à cette question-là, frères et sœurs, nous tournons vers Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Il est écrit, hein, après que Adam et Ève soient tombés et que ensuite il y a eu cette petite altercation entre Adam et Dieu et Ève où ils se blâmèrent les uns les autres, mais ensuite Dieu a dit au serpent, voilà, parce que tu as fait cela, tu seras maudit, etc. Et verset 15, il a dit, et je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. Et donc ici, Dieu était ici en train d'annoncer, c'était la première, l'esprit de prophétie nous dit que c'était la première fois que Dieu annonçait le plan du salut à travers Christ. Et au verset 21, maintenant nous voyons l'aspect pratique de cette promesse où je lis « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Et si vous réfléchissez ici, frères et sœurs, vous réalisez que pour avoir des robes de peau, il fallut la mort d'un animal. Mais, puisque Dieu n'autorisa la consommation de chair d'animaux qu'après le déluge, à Noé, lorsqu'il sortit de l'arche, ces peaux-là devaient être des peaux d'animaux en fer, offerts en sacrifice. C'est la seule origine que cela pouvait être. Et nous voyons ici l'interaction entre ce verset et le sacrifice de Dieu. Je lis, ou plutôt j'aimerais lire la continuité de parabole de Jésus à la page 271, paragraphe 2 et 3. Donc nous avons vu que nos feuilles du figuier ne suffisent pas, mais qu'est-ce qui alors peut suffire? Et pour cela je lis, seuls les vêtements qui ont été préparés par Christ nous permettront de nous présenter en la présence de Dieu. Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse humaine. Dans son humanité, Christ a formé un caractère parfait. Et c'est ce caractère qu'il propose de nous communiquer. Toutes nos justices sont comme un vêtement impur, elle cite Ésaïe 64, verset 5. Tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes est souillé par le péché. Mais le Fils de Dieu a paru pour ôter nos péchés et il n'y a point de péché en lui. Le péché, selon la définition biblique, est la transgression de la loi. Christ s'est soumis à toutes les exigences de la loi. Il disait de lui-même, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Lorsque Jésus était sur la terre, il affirmait à ses disciples, j'ai gardé les commandements de mon Père. Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les hommes l'observation des commandements de Dieu. quelle est cette robe que dont ces robes de peau étaient un symbole. Je le lis. Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. Donc, lorsque Adam et Ève se sont repentis et ont cru dans la promesse de Dieu de mettre inimitié entre Satan et la femme, entre la postérité du diable et la postérité de la femme, à savoir Christ, celle-ci, cette postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, le Satan, tu la blesseras au talon. Lorsque ils ont reçu cette promesse et que Dieu leur a aussi présenté la promesse dans de là bien plus large détail, Adam et Ève se sont repentis et ont cru, et Dieu les a quoi ? Revêtus de sa robe de justice. Parce que par la foi, ils avaient accès au sacrifice de Christ à travers la promesse, quoique il n'ait pas encore eu lieu, mais la promesse était suffisante, et c'est sur cette promesse acceptée et reçue par la foi que les patriarches et les prophètes se sont, pendant en leur temps, se sont appuyés, et c'est de cette promesse qu'ils ont dépendu pour leur justification et leur sanctification et leur salut. Ils avaient accès à Christ par la foi, de la même manière que nous avons accès à Christ par la foi. Seulement, ils s'attendaient à Christ, et nous regardons à Christ dans le passé. Vous voyez, là, c'était la seule différence. Mais la promesse était toute suffisante, et Dieu, dès le départ, après la chute, offrit et revêtut ses enfants, Adam et Ève, de la robe de la justice de Christ. Et ce qui était pour eux-mêmes, un accomplissement des paroles qui sont aujourd'hui adressées aux Laodicéens que nous avions lues, où Dieu, Jésus, le témoin fidèle et véritable, propose et offre des vêtements blancs pour que nous soyons vêtus et que la honte de notre nudité ne paraisse point. Ces vêtements blancs, ce ne sont autres que cette robe de justice qui n'est autre que, comme nous l'avions vu, le caractère parfait que Christ a formé dans son humanité. C'est cela que ces choses-là représentent au premier abord. Premièrement et tout d'abord, c'est cela qu'elles représentent. Et c'est cette valeur spirituelle qui est primordiale, qu'il est primordial pour nous de comprendre. Toutefois, ce n'est pas juste un symbole. Vous comprenez? Ou plutôt, le symbole utilise, pour le symboliser, une réalité qui n'est pas à négliger. Vous comprenez? La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, nous tirons le symbole, mais nous ignorons ce qui est utilisé pour symboliser la chose spirituelle. Donc, nous tirons un sens spirituel, mais nous ignorons cette chose, cette illustration que Dieu a donnée et qui aurait dû être intimement et étroitement liée, lançant et établissant un pont entre la réalité physique et concrète et la réalité noble, élevé et spirituel. Mais aujourd'hui, dans le christianisme moderne, nous exaltons la vérité noble et spirituelle, mais nous rabaissons, nous ignorons ou nous anéantissons la chose qui est utilisée pour l'illustrer. Et par ce fait même, par cette pratique même, en rabaissant, en ignorant, en négligeant, en anéantissant ce qui est utilisé pour illustrer, nous détruisons ce qui est illustré. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important de réaliser que les deux choses sont intimement liées. De la même manière que Jacques, dans son épître, disait « Si un homme a la foi, mais qu'il n'a pas les œuvres, c'est un hypocrite. » Vous comprenez le lien ici? Ici, j'aimerais lire ce beau passage de l'esprit de prophétie qui montre cette expérience qu'Adam fit dans ce verset 21 ici de Genèse chapitre 3. Je lis. C'est ça ici, c'est le premier sacrifice ici. Vous voyez, frères et sœurs, le premier sacrifice servi en type du sacrifice de Jésus. Et le premier sacrifice qui fut offert par les mains d'Adam servit à revêtir Adam et couvrir sa nudité. Vous voyez l'importance de tout ça, frères et sœurs. Vous voyez comment c'est si intimement lié. Je regardais récemment et je me posais la question vraiment intensément. Comment est-ce possible que nous, parce que aujourd'hui nous faisons des peintures, nous faisons des illustrations de ces choses-là, de cette scène que nous n'avons jamais vue de nos yeux. Cette scène d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, après qu'ils aient péché. Alors nous représentons Adam avec des feuilles de figuier, disons, juste pour cacher le plus intime. Ensuite, nous représentons Ève aussi avec des feuilles qui, juste là, comme un top, et qui couvre simplement les seins et les parties intimes. Donc, après, par contre, lorsqu'ils sont revêtus, nous les représentons avec, comme une espèce de, vous savez, ces robes d'été qui s'arrêtent sur l'épaule et qui descendent un peu au-dessus du genou. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce qui nous inspire que nous représentons l'œuvre de Dieu d'une manière si absurde? Est-ce que Dieu a changé les feuilles de figuier et a simplement fait un t-shirt avec un short pour Adam et Ève? Est-ce que c'est ça Dieu? Est-ce que c'est ça le Dieu que nous adorons? Si oui, nous adorons un Dieu dont la Bible ne parle pas. Dieu, quand il revêtit Adam et Ève, voulut revêtir toute leur nudité afin de représenter parfaitement le sacrifice de Christ. Donc lorsque nous représentons Adam et Ève avec leur espèce de tunique coupée court en dessous des épaules et légèrement au-dessus ou en dessous des genoux, en fait nous sommes en train d'insulter le sacrifice de Jésus. C'est ça le sacrifice de Jésus? C'est pour ça que Jésus est mort, pour nous faire un short et un t-shirt en peau, soit dit en passant. Voilà ici à ce que je viens de dire, mettez en contraste l'expérience que fit Adam dans ce premier sacrifice qui représentait la mort de Jésus. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 46 et au paragraphe 2, nous lisons le suivant. L'offrande du premier sacrifice fut pour Adam une cérémonie très douloureuse. De sa propre main, il dut ravir à un être la vie que Dieu seul pouvait donner. C'était la première fois qu'il voyait la mort. Et il savait que s'il avait été obéissant à Dieu, la mort n'eût jamais frappé les hommes ni les animaux. En égorgeant l'innocente victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de l'agneau immaculé de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus profond et plus vif de la gravité de sa transgression qui ne pouvait être expiée que par la mort du bien-aimé Fils de Dieu. Puis Adam s'émerveilla devant la bonté infinie de celui qui consentait à offrir au coupable une telle rançon. Une étoile d'espérance illumina dès lors l'avenir sombre et terrible, le dépouillant de son profond désespoir. Voilà l'expérience qu'Adam fit. Et il vit lui-même ce que cela coûterait pour que Dieu puisse le revêtir si amplement et si complètement. Il sentait sur lui ce vêtement qui coûterait la vie au Fils bien-aimé de Dieu. Et voilà ce que cela coûte pour que Dieu puisse nous justifier de nos péchés. Mais après que Dieu nous justifie de nos péchés, marcherons-nous dans ce monde revêtus comme nos premiers parents lorsqu'ils étaient encore couverts par leurs imparfaites feuilles de figuier? C'est ça la question que j'aimerais poser sur notre cœur aujourd'hui. Allons-nous nous réclamer du sang de Christ pour ensuite marcher en t-shirt et en short en représentant au monde notre pleine nudité qui n'est que la représentation amère de la transgression de la loi de Dieu? Nous sommes présentés, frères et sœurs, à ces solennelles questions et interrogations sur le lien étroit entre la nudité physique et la nudité spirituelle, que Dieu a puissamment mise en lumière à travers ces événements et à travers le sacrifice qu'il a pourvu pour revêtir et couvrir la nudité de nos premiers parents. Et dans cette action de Dieu en faveur d'Adam et Ève, on peut voir la sollicitude avec laquelle il se chargea lui-même de choisir leurs vêtements et par laquelle il fit irrévocablement le lien entre la nudité spirituelle et la nudité physique, démontrant la nécessité pour nous de couvrir les deux. Il démontra par cela la nécessité pour nous, comme pour eux, de couvrir les deux. De couvrir la nudité spirituelle, de couvrir la nudité physique. Car les deux sont inséparablement liés. Et donc, après, en harmonie avec les paroles de... Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, à la page 297 et paragraphe 3, où il est écrit « Le vêtement est un reflet de l'esprit et du cœur. Ce que l'on porte sur soi est le signe de ce qui est en soi. » Ou littéralement, « Le vêtement est un indice de l'esprit et du cœur, ce que l'on porte à l'extérieur est le signe de ce qui est à l'intérieur. » ce que l'on porte à l'extérieur sur notre personne est le signe de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc si nous sommes nus, dans quelque mesure, l'esprit de prophétie, si ce n'est pas moi qui le dis, l'esprit de prophétie nous dit que c'est un juste indice de notre esprit et de notre cœur. Est-ce que cela représente correctement ce qui est à l'intérieur? Notre nudité extérieure représente notre nudité intérieure. Et si nous ressentons réellement que Dieu a pourvu à chaque recoin de notre nudité spirituelle par son merveilleux sacrifice coûteux, alors nous recevrons l'inspiration pour refléter notre purification par Dieu. Et nous montrerons à nous-mêmes et à Dieu et aux hommes que nous croyons que Dieu a fait un tel sacrifice, qu'il a pourvu pour couvrir toute notre personne qui est tant pécheur et pécheresse. Et alors, nous pourrons, comme certainement Adam pouvait et a pu l'exprimer, nous exclamer des paroles à double sens d'Ésaïe chapitre 61, verset 10. Ésaïe chapitre 61 et verset 10. Où il disait certainement, et nous pouvons dire aussi certainement, si nous avons compris ces leçons, je me réjouirai en l'Éternel, et mon âme s'égaiera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice. Comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Puissions-nous comprendre et puissions-nous changer. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.